Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Footpod consacré à la troisième journée des poules de la Coupe du Monde 2018 et plus précisément les groupes E, F, G et H.
Et Yann... comme c'est la fin des poules, on peut presque dire pull up everybody.
Et donc Yann est là et fait des jeux de mots pourris. J'espère que ça aura merdé à l'enregistrement et que celui-là il sera sauté, hein, parce qu'il était particulièrement mauvais.
Oui.
Presque aussi mauvais que le match des Serbes contre les Brésiliens.
Tout à fait.
Qui ont été décevants. Hein. Voilà, Brésil ça pose 2-0. Gère tranquillement son... Voilà, c'était pas spectaculaire, mais c'était efficace. Voilà, les Serbes... Voilà, les Serbes, je dis pas, décevants. C'est pas les Croates, hein. Là, au moins, on peut clairement dire, les Serbes et les Croates sont différents. Mais il y a une volonté... Il y a une volonté de faire comme les Croates, mais techniquement, c'est un petit peu plus limité. Et bon, voilà, après, bon, bah, le Brésil, donc, s'impose dans cette poule. Pas grand chose à dire sur ce Brésil qui a pas été non plus c'est pas du football champagne qui nous a proposé à part peut-être les 20 premières minutes contre la Suisse en ouverture
la première mi-temps entière je dirais.
Moi non, moi je vais jusqu'au but de Coutinho. On a un Neymar qui veut tellement briller que bah il se plante hein. Clairement tu lui files la balle, oui, il ça. La rend pas, il tombe. Voilà, tu lui passes la balle, il la rend pas, il a du mal à dribbler tous les joueurs, donc du coup, il tombe par terre, il roule pendant 15 ans. Si tu comprends, l'herbe, elle l'a blessé, hein. Oula, elle fait très mal, l'herbe. Combien de fois tu le vois qu'il tombe et il fait, bon, une roulade sur lui-même, normal, hein, dans l'élan. Il s'arrête une demi-seconde et puis tout d'un coup, tu le vois se relancer en hurlant à la mort. Donc je pense que l'herbe doit lui faire mal, il doit être allergique à l'herbe, à mon avis. C'est pas possible, hein, parce qu'il le fait partout, tout le temps, hein, sur tous les terrains.
Oui, c'est ça.
Donc il doit avoir un problème d'allergie à l'herbe. Heureusement qu'il était pas dans le groupe H, hein, parce que...
Joli.
T'as quand même mis 3 secondes à la comprendre.
Non mais j'avais tellement préparé pour le groupe H, cette blague, que tu me la coupes tout le pied. Tu me coupes littéralement l'herbe tout le pied.
Allez, je te laisse faire les blagues avec le chocolat sur le deuxième qualifié de ce groupe, c'est la Suisse. Qui a fait 2 partout contre le Costa Rica avec... Bah, en fait, ils ont marqué 3 buts, hein, parce que... À 93e, il y a un pénalty pour le Costa Rica, elle frappe la barre, elle frappe la tête du gardien et elle rentre.
Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression déjà que les Suisses ont déjà pris 6-2 buts dans un tournoi majeur il y a quelques années.
Possible. Mais là, enfin, voilà, les Suisses, ils étaient contents... Voilà, il rigolait, quoi, parce que déjà, le pénalty, il est plus que limite, en plus, le coup du sort, voilà, ils ont rigolé, parce qu'ils s'en foutaient, ils étaient qualifiés, quoi, enfin, voilà, ils savaient très bien que de l'autre côté, le Brésil menait 2-0, et que, ça se trouve, même le match était déjà terminé de l'autre côté, voilà, ils savaient qu'ils étaient qualifiés, et je pense que ça les arrangeait peut-être, hein, puisque du coup, ils rencontrent le premier du groupe F, qui est donc la Suède. Qui s'était imposé 3-0 contre le Mexique en dernière journée. Mexique qui était déjà qualifié, hein, mais donc du coup...
Non. La Suède gagnait 3-0, l'Allemagne 1-0, le Mexique était éliminé.
C'est vrai, il y avait une... Oui, enfin, mais bon, t'avais autant de chance que le Mexique se qualifie pas que la Corée du Sud se qualifie. Parce qu'il y avait toujours une possibilité que la Corée du Sud se qualifie. Mais, voilà. Après, les Mexicains, ils ont été décevants sur ce dernier match. Les Suédois les ont totalement maîtrisés. Et je pense qu'ils se sont usés, en fait. C'est fait partie de ce genre d'équipe qui se prépare pour être au top dès le premier match, à l'inverse des gros, qui sont plus poussifs dans les poules, parce que eux se préparent en vue des matchs à élimination directe plus que...
Ah bah l'Allemagne, ils sont très bien préparés hein, pour les matchs à élimination directe.
Et non, mais voilà, et tu les as vus au fur et à mesure des matchs. Puis après, bon, voilà, ils ont fait un énorme match en ouverture contre l'Allemagne pour battre l'Allemagne. Les Coréens les ont fait courir comme des tarés sur le deuxième match pour qu'ils aillent chercher la... Enfin, voilà, qui... Et les Coréens, ils ont rien lâché au deuxième match. Hein. Même si le Mexique menait 2-0, derrière, ils ont continué à jouer et à faire courir les Mexicains pour aller essayer de réduire le score. Et voilà, là, ils sont arrivés fatigués et c'est peut-être une bonne pioche pour le Brésil. Nous verrons ça bientôt.
Sur un match, ça peut le faire.
Voilà. Et donc sinon, bah, aucune surprise hein, dans le match 43 avec la victoire de la Corée du Sud 2-0 contre l'Allemagne.
Absolument aucune.
Bah écoute, qui avait dit que la Corée du Sud s'imposerait 2-0 contre l'Allemagne? C'est Bibi. Donc elle est où la surprise, hein?
C'est 2-1, Coco.
Non, j'avais dit 2-0 dans le pod. Dans le pod, j'avais dit 2-0.
Oui, après comme un con, tu t'es dit que les Allemands allaient en mettre un, c'est ça?
Bah quand même, j'ai eu pitié d'eux, quoi, mais... Un peu comme les Alliés en 18, ils ont eu pitié d'eux, ça leur est revenu dans la gueule en 39, mais bon... C'est voilà, hein, mais voilà, ça c'est comme dirait Twitter, hein, l'Allemagne c'est toujours fort en 14, moins en 18.
Mais ça très drôle sur Twitter.
Ah bah les vannes sur l'histoire allemande, ça y a été, hein, c'est Twitter, c'est on a un humour subtil et fin en comparaison de Twitter, tu vois.
Non, j'ai beaucoup aimé l'humour de Martin Fourcade de sur Twitter. S'il voulait faire annuler le brevet, le globe de cristal pour en avoir 6 à la maison.
Ça pèse pas 9 kilos. Vas-y, que Marie-Dora Hébert qui s'accruse dans mon épreuve, quoi. J'adorais ça, aussi. Ah là là, le brevet. Ah là 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 là. N'empêche, ouais, je suis super content pour les coureurs. Les pauvres, ils étaient morts de chez morts, ils en pouvaient plus. Les deux centraux, ils ont passé toute la deuxième mi-temps à se jeter pour dévier du bout du pied les centres ou les passes allemandes, quoi. Ils en pouvaient plus. Eh vas-y, quand t'en mets deux dans les arrêts de jeu, quoi, dans le temps additionnel. Ah, avec un Neuer, quand la Corée mène à zéro, un Neuer qui se met à... Tiens, j'allais jouer avant-centre, pendant le match.
Ça.
Mais à un moment, je le vois, je fais, mais merde, il est devant ses centraux. Mais merde, il est devant ses milieux offensifs. Mais merde, il est devant ses attaquants. Puis vas-y, qu'il essaye de te la jouer, Neymar. Mais non, t'arriveras pas à dribbler tout le monde balle au pied. Il a été totalement à l'ouest.
En même temps, ils pouvaient sortir même 3 minutes avant la fin, parce que l'Allemagne devait gagner. Donc, ils en prennent un deuxième, on s'en foutait.
Voilà. Et j'aime bien le Coréen qui tire de super loin, et puis tu vois qu'elle va pas être cadrée. T'as l'autre qui tape un sprint, son. Il tape un sprint de malade pour pouvoir aller la mettre au fond. Et verrouiller le 2-0, putain. Oh la vache, j'étais tellement content pour les Coréens. Bon, après, c'est...
Surtout qu'en première mi-temps, t'as quand même... un Suédois balancé dans la surface, mais surtout non, il faut pas qu'il y ait pénalty, donc déjà tu te demandes, en même parallèle, quasiment à la même minute ou 5 minutes après, t'as un Coréen balancé dans la surface et il faut pas qu'il y ait pénalty.
Ah oui, la première mi-temps, ça se sentait que il fallait pas donner, fallait pas, c'est pas qu'ils avaient cherché à avantager l'Allemagne, mais il fallait pas lui mettre des bâtons dans les roues. Et je pense qu'ils ont reçu les consignes à la mi-temps, ouais, non, mais ils sont tellement pathétiques, les Allemands, ils pourront jouer 4 heures, ils marqueront pas, hein, donc. Tout d'un coup, voilà. Mais après, voilà, je suis vraiment... Les Coréens, ils m'ont bien impressionné. C'est vraiment une équipe qui a vraiment joué, qui a essayé, avec ses faibles limites. Mais tu les vois de Coupe du Monde en Coupe du Monde, ils progressent, hein, sur le plan du jeu. Là, je me souviens, il y a quelques Coupes du Monde, c'était vraiment l'obligation pure et nette du schéma tactique avec le joueur qui est placé. Donc, milieu gauche, il doit courir de telle zone à telle zone et il en sort pas. Là, ça bouge beaucoup plus. Mais c'est aussi la conséquence du fait que tu commences à avoir des joueurs coréens qui viennent jouer en Europe. Alors même si c'est... Bon, Son, il est quand même à Tottenham. Enfin, bientôt, il va passer 2 ans à faire son service militaire en Corée, hein. Ça, c'est Pochettino, il va être super content d'être privé pendant 2 ans d'un joueur. Et oui, t'as pas de choix. Il va être obligé d'aller faire le service militaire en Corée à 26 ans. C'est classe.
Et en même temps, tous les citoyens font la même chose.
Oui. Oui, mais enfin, il devrait quand même y avoir des dérogations dans le sens où là, l'image internationale de la Corée avec un joueur de ce niveau-là qui se retrouve contraint de mettre entre parenthèses 2 ans pour service militaire, c'est pas une super image, hein, pour le reste du monde. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Après, oui, voilà, le problème, c'est que c'est une bonne démocratie, la Corée du Sud, donc une égalité de traitement entre tous ses citoyens... Faut pas faire de favoritisme. Mais voilà, je suis content pour les Coréens parce qu'ils ont quand même terminé par une belle victoire, ils le méritaient. Parce que voilà, encore une fois, sur leurs 2 premiers matchs, ils ont pas perdu de grand chose. Hein.
Voilà. Le Mexique-Corée, ça s'est pas joué à grand chose. Hein.
Et même le Suède-Corée, hein, c'est un petit but à 0 sur penalty grande cuisse, c'est pas. Voilà. Mais bon, du coup, ça nous offrira un Brésil-Mexique, comme j'ai déjà évoqué tout à l'heure en 8e. Et là, malheureusement, je vois pas les Mexicains réussir à faire quelque chose contre les Brésiliens.
Moi, je pense que sur un match, ils peuvent le faire, ça se cramer définitivement, juste pour dire on a sorti le Brésil.
Peut-être, je sais pas, mais Brésil me...
C'était un Mexique-Brésil, le match de la vie d'Ochoa, la dernière fois, ou un Argentine-Mexique, je sais plus.
Je sais plus non plus.
C'est celui où il fait le match de sa vie et il y a 0-0 à la fin.
Non, ça c'était l'Allemagne. C'était l'Algérie-Allemagne. Mais c'est possible que Ochoa ait sorti un match de folie il y a 4 ans. Hein. C'est Ochoa, il est capable de te sortir des matchs où tu te dis je peux jouer 3 heures contre lui et j'en mettrai pas un. Et d'autres matchs où tu te dis même en tirant les yeux fermés, il va en prendre 5 quoi. C'est un peu Ochoa. Non, je pense pas parce que voilà, les Brésiliens sont trop efficaces. Voilà, ils ont une bonne défense, vraiment une bonne assise défensive devant. Ils arrivent à faire du beau jeu malgré Neymar. Mais merci Coutinho. Et je te dis, vu comment les Mexicains ont terminé leur dernier match de poule, je pense qu'ils vont être trop. Ou alors vraiment, ils font la tortue et ils tiennent le 0-0. Ils vont jouer.
Le 27 juin, t'as 6 jours jusqu'au match face au Mexique, au Brésil. Hein.
Quand même, ouais, mais quand même. Là, t'arrives sur la cumule, t'es en fin de saison, c'est l'accumulation plus que le... Après, je sais pas, c'est... Comment dire, c'est... Ou alors, tu verras peut-être dès la 5e minute qui joue les tirs au but, en fait. Voilà. Mais enfin, de toute façon, ça sera toujours plus intéressant à regarder que le Suède-Suisse. Suisse-Suède.
Oh, yeah.
Je pense, tu vois, que TF1 doit choisir 5 huitièmes de finale. Je sais pas pourquoi, je pense que celui-là, il n'en fera pas partie. Pour l'instant, on en a que 3. Hein.
Tu sais comment je le sens? Avec 4 huitièmes de finale à 16h, 4 huitièmes de finale à 20h, je vois bien juste le huitième de finale de la France qui est à 16h sur TF1, et tout le reste, ce sera ceux de 20h.
Je sais pas, le Brésil, il joue à 20h?
Non, le Brésil, il joue à 16h.
Donc, il y aura quand même le Brésil. Je les vois pas passer à côté d'eux.
Tu penses?
Oui. Je les vois pas passer à côté du match au Brésil, quand même. Attends, il y a Neymar, le joueur du PSG, quoi. Neymar, celui qui te fait jouir dès qu'il passe le milieu de terrain, balle au pied. C'est ça, voilà. Mais bon, je sais pas pourquoi tu veux pas parler de...
Silva et Sadomaso, il a fait partie des deux plus belles fessées de l'histoire du football.
Je sais pas pourquoi. Ah, rigole pas, il a marqué.
Non.
Si, si. Mais bon. Allez, voilà. Donc, Suède-Suisse, tu vois quoi, toi? Non, je sais pas.
2-0-0 ou un parti.
C'est comme deux équipes dont la stratégie c'est tous derrière et on prend l'autre en contre-attaque. Ça risque, ou alors soit ça nous fait un match qui part dans tous les sens et ça finit en 4-3, ou ça vous fait un bon 0-0, 0-0 à la fin des prolongues et 0-0 à la fin des tirs au but. Mais, non, je sais pas, je mettrai quand même une petite piécette sur la Suède.
Ouais, moi je pense à très loin d'ici.
Enfin bon, on verra bien. En attendant, groupe G. La Belgique, l'Angleterre terminent donc en tête, ça on le savait, hein, ils étaient déjà qualifiés avec 6 points chacun contre 0 pour la Tunisie et le Panama. Et donc tout le monde avait peur, parce que vu le profil des huitièmes, tout le monde avait peur d'avoir un match... enfin, où ils déjoueraient complètement les deux équipes, pour ça finir en 1-0.
Alors, j'ai pas vu le match, est-ce que ça a déjoué?
Il y a eu des occasions. Il y a eu plus d'occasions que sur France-Danemark, hein. Ça, c'est clairement oui. Maintenant, tu les voyais à chaque fois que ça relançait, parce qu'il y a eu à 6 mètres.
France-Danemark, 0-0, on parle bien des stats des occasions.
Pourquoi? Il y a des stats d'occasion dans France-Danemark?
C'est pour ça, 0-0.
Non, mais voilà, mais tu voyais à chaque fois qu'ils relançaient sur Assimet ou un coup franc dans leur défense, tu vois, ça relançait en marchant, ils étaient pas vraiment super pressés. T'avais presque les Anglais qui étaient presque vexés, parce que les Belges, ils ont créé deux occasions dans le premier quart d'heure, dont un sauvetage sur la ligne d'un défenseur anglais, mais voilà, tu vois, c'était vraiment un match de... Les Anglais, je pense qu'ils voulaient faire un match de gentleman, tu vois. On vous laisse attaquer tranquillement, vous nous laissez attaquer tranquillement, tu vois, trottinant, un bon match d'entraînement. Les Belges, le truc, c'est qu'en 2016, ils avaient « Ouais, on est qualifié dans la partie facile du tableau !» Et ils se sont fait taper par le Pays de Galles. Alors qu'ils avaient quand même aucune grosse équipe de leur côté de tableau à l'Euro 2016.
Si, le Portugal. N'oubliez pas le Portugal.
J'ai dit « grosse équipe ». Et ils se sont fait taper, donc ils savent très bien que le côté voilà, et nous on s'est quand même, t'as vu le parcours qu'on s'est tapé à l'Euro 2016, on finit en finale. Celui à toi du parcours à la Coupe du Monde 2006, on finit en finale. Hein, on s'est quand même tapé le Brésil, le Portugal, l'Espagne, hein. Pas dans ce sens-là,
l'Espagne,
mais...
L'Espagne, c'est pas le monstre qu'elle a été deux ans.
Ouais, mais quand même. C'était déjà pas mal, hein. Surtout qu'ils avaient la motivation de, d'envoyer Zidane à la retraite, hein. Donc voilà, je pense qu'ils s'en foutaient, ils voulaient juste aller chercher la première place du groupe, les Belges, voilà, 1-0. Ouais, derrière, bah, les Anglais, ils ont pas non plus ultra forcé, ils sont pas jetés à l'abordage des Belges pour essayer d'égaliser, quoi, hein, clairement. Et donc voilà, c'était beaucoup plus rythmé du côté Panama-Tunisie, mais alors avec un niveau technique... Bah, c'est-à-dire que, tu vois, en Ligue 2, on mange de la Domino's Pizza, et là, c'était plutôt de la Leader Price Pizza, quoi. Tu vois, c'est pour te dire le niveau. Mais même Ben Youssef, il a marqué un but, quoi. Faut se dire à quel point c'était pas... Et le Panama, donc, a encore marqué un deuxième but, hein. Un petit contre son camp. bravo les Panaméens, mais voilà, ils menaient 1-0 quand même.
Ils ont pas démérité. Ils ont 3 défaites, mais ils ont joué.
Voilà, et ils ont pas été aussi ridicules que... À part contre les Belges, où ils se sont fait exploser... ils perdaient 5-0 à la mi-temps, mais voilà.
Contre les Anglais, ça.
Oui, contre les Anglais. Mais finalement, sur la deuxième mi-temps, ils font un partout. Au premier match contre les Belges à la mi-temps, il y a 0-0. Bon, ils perdent 3-0 à la fin.
La contre les Belges est plus significative que celle contre les Anglais.
Oui, parce que les Anglais, ils sont arrêtés de jouer en deuxième mi-temps.
Oui,
mais quand même, après, peu importe, même si les joueurs panaméens, ils ont conscience que c'est parce que les Anglais ont arrêté de jouer. Mais quand même, t'as quand même fait un partout contre des Anglais. C'est
quand j'ai vu les images et la liesse panaméenne au moment du but, mais j'ai l'air de doigts de chialer.
Bah oui, c'est.
Mais juste pour marquer un but en Coupe du Monde.
C'était leur première Coupe du Monde, ils y vont jamais. Ils ont quand même dû sortir d'un groupe de la mort, hein, au quatrième tour avec Haïti, Jamaïque et Costa Rica. Derrière, ils ont dû se qualifier donc devant le Honduras, les États-Unis, quand même, hein, les États-Unis. Et Trinité et Tobago, donc pour eux, déjà rien que être en Coupe du Monde, c'était une victoire, en soi. Et en plus, voilà, ils ont pu marquer leur premier but, et il fallait en profiter, parce que, bon, à partir de 2026, les nations sont presque payées pour venir jouer la Coupe du Monde par la FIFA, tellement tout le monde pourra y aller. Donc il y aura moins ce côté exploit du petit pays qui arrive à s'arracher dans les qualifs. Non, mais attends, il faut arrêter. Déjà en 2022, il faudrait peut-être qu'ils envisagent la Coupe du Monde à moins de 50 degrés à l'ombre. Ça serait déjà sympa.
En novembre.
Mais même en novembre. Mais voilà. Donc.
Tu sais les cool breaks au Brésil. Pas si tu te souviens, les
cool breaks. Oui, oui. Attends,
c'est
mais.
Juste pour montrer que ça marchera au Qatar.
Ils le font aussi en Ligue 1. Hein. Je te rappelle au mois d'août, ils font des pauses fraîcheurs. Pas dans tous les matchs, mais. Mais voilà, pour en revenir à Panama-Tunisie, ouais, c'était un match vraiment sympa parce que c'était rythmé, les deux équipes calculaient pas, elles cherchaient à aller chercher la, elles cherchaient la victoire, donc elles cherchaient à aller chercher la victoire. Et donc ça nous a fait un match très ouvert, c'était très sympa, mais bon après comme je dis techniquement et tactiquement, bon la Tunisie a des excuses parce que bon ils ont perdu leur gardien, le machin, gna gna gna, mais quand même on pouvait s'attendre à mieux. Plus solide, plus costaud. Pas que la Tunisie sorte, mais au moins qu'ils soient pas à devoir aller chercher une victoire. Mais ils étaient en train de perdre contre le Panama, quoi.
Disons donc, que la Tunisie n'a pas été l'épine dans le pied qu'on pensait qu'elle serait.
Voilà. Par contre, le Sénégal l'a été dans son groupe. Dans le groupe H. Et donc, la Colombie et le Japon se qualifient devant le Sénégal et la Pologne, sachant que le Japon se qualifie en ayant égalité de points avec le Sénégal, autant de buts marqués, même différence de buts, 2-2 dans la rencontre directe, donc il a fallu aller chercher le fair play, et c'est 4 cartons jaunes pour le Japon contre 6 pour le Sénégal, donc bye bye le Sénégal, hein, qui perd au nombre de cartons.
Non, c'est 4 et 5, je crois.
Oui, mais enfin bref, ils en ont un poil plus. Ils avaient qu'à pas non plus les casser dans le match Japon-Sénégal parce que là aussi ils en ont pris pas mal. Alors certains vont dire que c'est injuste, moi je trouve que c'est quand même ça reste un critère sportif. On des classements fair play, il y en a à peu près partout dans toutes les compétitions. Donc ça me choque pas plus que ça. Je préfère qu'on départage au nombre de cartons qu'au tirage au sort ou à l'équipe qui a la moyenne d'âge la plus élevée, quoi.
Je suis d'accord.
Sinon les Italiens ils seraient tout le temps gagnants. Mais
Non, mais les Italiens, ils seraient toujours gagnants. Bah oui, oui, remarque, parce qu'ils prennent tellement de cartons que... Par contre, Sergio Ramos, ce carton, il est gagnant, lui. Ils ne prend jamais.
Comme Thiago Motta, il n'en prenait jamais non plus. Mais ils ont un ratio blessé carton jaune encaissé excellent. Hein. Mais bon, bref, voilà. Après le Sénégal, ils peuvent s'en vouloir parce que ils ont quand même des joueurs, ils ont quand même d'excellents joueurs hein, comme Koulibaly derrière, Sadio Mané. Mais après, voilà, ils ont été trop tendres, j'ai envie de dire trop limite. Et c'est presque pas une surprise quand tu n'arrives pas à battre le Japon. Que t'arrives pas à être vraiment dangereux contre une Colombie qui a pas été exceptionnelle et qui a été privée de Ramés Rodriguez à la mi-temps. Donc, parce qu'il était blessé, hein. Donc, voilà. Et la Colombie s'est imposée à 1-0, mais ça a été poussif, hein. Et, on a eu très chaud, hein, parce que, avec ces deux matchs-là, à mi-temps, hein, je croyais qu'on serait pas les seuls à finir sur 1-0-0. Et si, monsieur, on est le seul sur les 48 matchs de la Coupe du Monde à avoir fait un 0-0. Voilà. On est les premiers à avoir utilisé la VAR pour valider un but, un pénalty et un but.
Molière a utilisé la VAR il y a 3 siècles déjà.
C'est cochon ce que tu dis. C'est dégueulasse. Voilà. Bref. Faire des vannes que tout le monde a utilisées depuis des plombes, y compris à Toulon, c'est pas normal.
Oui, voilà.
Voilà, comme ça c'est bon, on peut continuer.
Check.
Et donc voilà, après la Colombie, la Colombie, c'est ça le problème. C'est la Colombie, c'est une très belle équipe, une équipe forte, quand ils sont tous là. Et s'il manque un joueur parmi les Cuadrado, Ramés, Falcao, c'est plus du tout le même visage hein, cette Colombie.
Mais ça me fait plaisir pour Falcao quand même, parce qu'effectivement, le pauvre amateur. En 2014, qui avait détruit le jeu de Falcao, il était pour rien.
Ben.
Il a culpabilisé derrière.
Ouais, parce qu'il a pas fait attaque contrôlée, quoi. Il a fait attaque d'amateur, malheureusement.
Oui, mais c'est la beauté de la Coupe de France, que les amateurs jouent
contre. Ah! De casser les genoux des joueurs pros, c'est ça?
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, oui.
Le mec, il le fait pas exprès. Si, c'est la faute à pas de chance. Le genou, il est d'un millimètre décalé, c'est peut-être pas, il se fait peut-être pas le genou, il se fait juste mal, le KO.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, le résultat, voilà. Et puis bon, il a réussi à revenir, et ça, c'est bien. Et puis du coup, ben, Monaco était plus pressé de le vendre.
C'est ça. Et puis sa purge, en Angleterre lui a fait du bien.
Et pendant ce temps-là, la Pologne a joué le jeu, hein, puisqu'ils étaient éliminés, mais ils ont quand même été chercher une victoire pour l'honneur contre les Japonais. Et là, c'est là que tu vois que il y a vraiment un gros problème et que ça ne sert plus à rien de faire des matchs en simultané. Quand tu vois le dernier quart d'heure de Japon-Pologne avec deux équipes totalement arrêtées, parce que le Japon voulait surtout pas prendre le risque d'encaisser un but de plus ou de prendre un jaune. Les Polonais, ils étaient bien contents de ne pas voir les Japonais attaquer puisqu'ils avaient leur victoire pour sauver l'honneur. Donc t'as eu deux équipes, mais alors les trois dernières minutes, c'est hallucinant. Les 22 joueurs sont arrêtés totalement au milieu de terrain.
Ah bah ils sont une passe à 10 japonaise.
Ah, c'est même plus de la passe à 10, parce que la passe à 10 ça bouge un peu. Mais là c'est vraiment à toi, à moi, sur 2 mètres, ils se les passent, ils attendent, et à la 93ème, l'arbitre les incite même à mettre la balle en touche pour pouvoir faire rentrer un joueur polonais qui attendait. Et au moment où le joueur polonais rentre, bah il siffle la fin du match parce qu'il se dit ah non, hein, s'ils repartent. Mais voilà, enfin.
C'est vrai parce que tant que la balle ne franchit pas le milieu de terrain. Il n'y a pas une relance ou un truc, on peut pas siffler la fin du match.
C'est si,
des règles arbitrales.
Si, il peut siffler la fin du match quand il a envie, hein. Là, il se faisait pas passer au milieu de terrain, il pouvait. Mais tu voyais bien qu'il voulait que le Polonais rentre en jeu, quoi. Pour qu'il, je sais pas si c'était un Polonais qui avait jamais joué, enfin, tu vois, il voulait faire rentrer en jeu le pauvre joueur polonais et que ça faisait 5 minutes qu'il attendait sur le bord de la touche, hein. Donc voilà, il a bien fait signe aux Japonais, mettez-la en touche, tu vois, même le Japonais tout désespéré qui attend bien que on en est à 80, il y a 3 minutes de temps additionnel, on est à 93-08 avant qu'il la mette tout doucement en touche, tu vois. Pour être sûr que sur la relance, il va siffler la fin du match, mais c'est à s'ouvrir les veines. On a entendu, je sais pas combien de débats sur c'est une honte, le France-Danemark, pensez aux gens qui ont payé 1000 € pour aller voir un match comme ça. Mais là, pour voir ça, c'est aussi honteux. Mais ils s'en foutaient, les supporters japonais, ils faisaient la fête. Ils sont qualifiés.
En même temps, c'est pas le même.
Voilà. Mais quand tu vois déjà sur cette Coupe du Monde que tu te retrouves avec des France-Danemark ou des fins de match là comme Japon-Pologne, mais qu'est-ce que ça va être quand ça va être des poules de 3, hein? C'est
Mais on va revenir à l'Allemagne-Autriche de 82, hein.
Ah mais on va
presque déjà, hein.
Ça va être que du ça va être que de ça, hein. Mais après après c'est aussi le défaut de savoir l'adversaire et la partie de tableau dans laquelle tu vas être. Et pour moi, il faudrait faire un tirage au sort entre faire une poule des premiers, un groupe des premiers, un groupe des seconds, tu vois,
un chapeau
et refaire un tirage. Mais ça pose le problème que admettons que tu te retrouves avec le Japon qui a joué son dernier match donc le 28 juin donc ils ont fini second, imagine qu'ils se tapent le premier là, l'Uruguay, qui eux ont joué leur dernier match le 25 juin, ça fait quand même trois jours d'écart en termes de récupération, c'est colossal. Ou alors t'admets, tu fais une pause. Donc ce qui nous donne pour les huitièmes le petit Belgique-Japon. Je crains, hein, les Japonais là, ils ont fini carbonisés contre les Polonais. Ils étaient bien contents de pas trop courir contre les Polonais, hein.
Ouais, mais alors justement, tu vois, Angleterre-Belgique, c'était le dernier match. Ils savaient qu'ils pouvaient jouer. Il y avait tout un jeu parce que soit tu jouais le Japon en huitième, mais en quart c'est Brésil-Mexique en face. Donc,
oui.
Que le Mexique sorte le Brésil, peu de chance d'arriver quand même. Tu t'assures d'un gros quart. Soit tu jouais la Colombie en huitième, mais derrière c'est plus pépère en quart.
Voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ont les Anglais, mais je sais pas. Peut-être pour ça que les Anglais n'ont pas trop forcé pour essayer d'aller chercher. Mais après, d'un autre côté, c'était tellement indécis dans l'autre groupe. Tu sois japonais, sénégalais ou colombien, tu savais que t'allais taper l'Angleterre ou la Belgique. Mais la Belgique, eux, ils avaient trois adversaires possibles, hein, n'oublions pas. Donc entre le Japon, le Sénégal et la Colombie.
Pas les poules ensemble, si tu veux. La dernière poule, elle était avantagée.
Oui, c'est vrai que l'Angleterre et la Belgique jouant le soir et eux jouaient à 16h, ils connaissaient l'ordre du Japon. Ils savaient que s'ils finissaient premier, ils tapaient le Japon, quoi. Et on en revient toujours au problème de ce que j'ai dit, quoi. Enfin voilà, il faudrait des chapeaux, il faudrait trouver un autre système que de prédéfinir premier A contre deuxième B, premier C contre deuxième D, etc. Parce que là, tu t'en sors pas.
J'ai une idée avec une pause au milieu. Ça ferait pas de mal. Parce
c'est pas mon idée. C'est mon.
Du monde, j'ai plaisir à la suivre. Mais tu vois, après 15 jours de match de poule, là on enregistre le vendredi 29, je suis quand même content que aujourd'hui il n'y ait pas de match.
Oui, c'est surtout que là on vient de se taper 4 jours avec des matchs en simultané, quoi. Moi j'ai les tous suivis sur deux écrans, puis surtout que tu vois que les équipes savent quasiment dans les 2 minutes l'évolution du score dans l'autre stade. Donc aujourd'hui ça ne sert plus à rien pour dire éviter qu'une équipe calcule. C'est faux, ça calcule à mort, et on l'a vu là sur Japon-Pologne, sur France-Danemark. Donc autant assumer, ils avaient qu'à continuer à mettre un match à 15h, un match à 18h, un match à 20h, enfin, tu vois, pour cette dernière journée. C'est un peu comme le concept de vouloir à tout prix faire le multiplex sur les deux dernières journées, même si en championnat, même s'il y a plus d'intérêt, au final, c'est quand même les classements sont rarement bouleversés, quoi. Et tu vois tous les bancs, ils sont là collés au téléphone à suivre l'évolution des scores sur les autres stades. Donc ça fonctionnait dans les années 60, hein, où ça mettait 2 jours l'information pour aller de Toulouse à Strasbourg, mais
dans les années 60 on ne faisait pas.
Non mais tu comprends ce que je veux dire. Aujourd'hui, avec l'instantanéité internet, t'as beau être sur 2 créneaux horaires différents en Russie, tu sais à la minute près l'évolution du score d'un côté et de l'autre, et pas que les bancs, de toute façon tout le stade le sait. C'est quel stade que t'entendais le public qui était vachement heureux? C'était sur la poule allemande, sur la poule allemande que t'avais les Mexicains, le public mexicain qui était plus heureux à l'Ekaterinbourg que le public coréen à Kazan quand les Coréens ont ouvert le score contre les Allemands, tu vois. C'est pour dire. Et moi, ayant les deux matchs en simultané, je peux te dire que dans la seconde près, les supporters mexicains le savaient, hein. Ils se sont mis à hurler de joie, alors qu'il se passait rien sur le terrain. Voilà. Alors qu'il se passait rien à ce moment-là, hein, dans le match. On peut pas dire qu'il y a eu une grosse occasion ou machin, et tu t'as entendu le public se mettre, ouais! Bah en même temps, la Corée, ça faisait 20 secondes qu'ils avaient marqué leur but, quoi. Donc, c'est dire... c'est faire absolument la simultanéité pour conserver l'équité et pas de calcul, ben on voit bien que ça fonctionne plus. Donc il faudrait trouver un autre système. Et comme tu dis, voilà, de faire une pause de quelques jours, c'est pas une idée à moi. Hein. Je l'ai entendu dire par un journaliste de l'équipe. Donc, je sais plus lequel. Hein, alors je vais pas dire de bêtises, mais voilà. Et donc ça nous donne pour les huitièmes un tableau, donc la France se retrouve dans le haut du tableau, donc il rencontre l'Argentine en huitième, et potentiellement le vainqueur de ce match, enfin pas potentiellement, c'est sûr, le vainqueur de ce match rencontrera le vainqueur de Uruguay-Portugal, et en demi-finale, ça sera soit le Brésil, le Mexique, la Belgique ou le Japon.
Donc d'ailleurs, pour répondre à la question qu'on posait en début de pod, Brésil-Mexique ne sera pas sur TF1 dimanche 16h.
Non, ils ont...
Belgique-Japon, le soir, il sera.
Ils ont pris Croatie-Danemark, ça m'a surpris.
Ouais.
Oui, parce que t'es...
Résultat pour mardi 3 encore.
TF1 met du temps à se décider sur les huitièmes de finale, c'est étrange. Mais donc voilà, huitième, je répète, donc Uruguay-Portugal, France-Argentine, les deux vainqueurs se rencontreront. Brésil-Mexique, Belgique-Japon, les deux vainqueurs se rencontreront.
Voilà, et puis à l'arrivée, du coup, Uruguay-Portugal, France-Argentine, ça sera face à Brésil-Mexique, Belgique-Japon, comme tu disais tout à l'heure.
Voilà.
Ça fait pour la France, Argentine, Portugal ou Uruguay, ça c'est indécis, et potentiellement Brésil, quoi.
Ben là, on peut s'enchaîner Argentine, suivi de Portugal ou Uruguay, parce que je pense pas que l'Uruguay ça soit un cadeau, hein. Ils ont quand même fini meilleure défense des poules, ils ont pas encaissé de but. Devant, ils ont quand même Suarez et Cavani, plus des bons milieux de terrain pour monter les ballons et abreuver les deux attaquants.
Ouais, enfin, meilleure défense des poules, ça veut rien dire. En 2006, la Suisse s'est fait sortir de la Coupe du Monde en huitième après un 0-0 au tir au but, alors qu'elle n'avait encaissé aucun but des poules et de son huitième.
Ouais, mais ils avaient pas Cavani et Suarez devant. Et là, c'est vrai que ça peut faire un bon 0-0, parce que le Portugal, c'est aussi costaud derrière, hein, c'est très solidaire, et t'as toujours un Cristiano qui peut te sortir des gestes de génie, quoi. Mais bon, peu importe. Que ce soit la France ou l'Argentine qui passe, ça sera pas un cadeau le quart de finale, et comme tu dis, en demi-finale, ben, c'est soit la Belgique, soit le Brésil, a priori, hein, et donc ça sera aussi un adversaire costaud, donc ça fera pour le finaliste sorti de cette partie de tableau un gros parcours quand même, hein. Alors que de l'autre côté, c'est un poil plus tranquille, puisque tu as Espagne-Russie, le vainqueur affrontera le vainqueur de Croatie-Danemark, ouais, bah ça risque de faire un Croatie-Espagne, et ça va être un gros match, et je vois pas les Espagnols passer, honnêtement, contre les Croates. Enfin, j'espère que les Croates vont pas s'effondrer, en tout cas.
Et l'autre... Sergio Ramos fera un petit coup de judo.
Et de l'autre côté, un petit Suède-Suisse, dont le vainqueur affrontera le vainqueur de Colombie-Argentine.
Colombie-Angleterre.
J'ai dit Argentine, merde. Oui, Colombie-Angleterre. Ouais, ça commence par la même lettre, ça finit par la même lettre, c'est bon, quoi. Il y a un R dans les deux... Si, c'est bon, c'est pareil, il y a DE, DR dans les deux.
Tu l'as loupé, Nico, quand tu disais bah non, il fallait que tu répondes mais si.
Non, je refuse. Ça sera pas forcément plus facile, hein, parce que la Russie, par exemple, prenons l'Espagne. La Russie, elle est quand même chez elle et voudra faire l'exploit, parce que battre les Espagnols, ça restera quand même un exploit. Derrière le vainqueur de ce match-là, il devra a priori scoltiner la Croatie ou le Danemark. Et le Danemark, c'est jamais...
Le Danemark derrière, je pense que si l'Espagne et le Danemark passent, si on a l'Espagne-Danemark, je pense que l'Espagne passera en demi. Parce que très clairement, si le Danemark est derrière, l'Espagne jouera le tiki-taka et ça va être fini.
Ouais, mais ils ont quand même une défense qui est plus aussi forte qu'avant. Hein. Piqué Ramos, du coup, ils commencent à accuser leur âge.
Bah, c'est pour ça qu'ils se sont mis au judo.
Et on a vu sur par exemple contre le Portugal, où ils prennent l'avance d'un but, ils se mettent à faire leur pipi caca, et il faut prendre en contre. Et les Danois, ils sont capables de le faire. Hein. Et les Danois, déjà, il va falloir leur mettre un but. Quand ils verrouillent derrière, les Danois. Hein. C'est vraiment une équipe loin d'être évidente. Ça sera pas des matchs spectaculaires, ça sera pas des grosses affiches, mais ça sera pas des matchs évidents. Et là, c'est pareil.
On n'aura pas de 0-0. Sera le seul 0-0 de la Coupe du Monde. C'est un 0-0.
Ah bah non, on sera le deuxième, parce qu'on aura aussi France-Argentine en 0-0. Et de l'autre côté, bah Suède-Suisse, le vainqueur, Colombie-Angleterre, ça sera déjà pas évident de s'en sortir. Et le vainqueur va devoir se coltiner un bloc défensif suédois ou suisse, ça va pas être évident non plus. Enfin, là, je plains. Imagine l'Angleterre qui se, donc, sort difficilement contre la Colombie au bout d'un match homérique, qui derrière se coltine les Suédois qui verrouillent derrière et ils passent. Et là, ils se tapent les Danois en demi-finale qui ont verrouillé contre les deux autres. Et t'es dégoûté du foot, hein. Je pense que les 23 anglais, à ce moment-là, ils arrêtent le foot, hein.
C'est ça. Et alors, tu vois, je suis en train de me dire qu'on aborde là les huitièmes et les huitièmes et les quarts, c'est un peu comme le deuxième tour et le troisième tour de Roland Garros. C'est souvent là où ce sont des petits matchs tout près, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est là où ça joue.
Non.
Mais, si, moi je pense que ça va jouer. Ça va beaucoup plus jouer en huitième et en quart qu'en demi ou en finale, par exemple.
Bah après, ça peut dépendre, parce que tu peux te retrouver avec la petite équipe qui, pour elle, a déjà réussi sa Coupe du Monde, parce que l'objectif était de sortir des poules. Par exemple, les Japonais. Hein, à part les Japonais, je vois pas de petites équipes. Peut-être les Russes, parce que vu l'état lamentable de leur sélection nationale, sortir des poules, c'est déjà une limite, un exploit. Mais bon, les Japonais, ils ont plus rien à perdre, hein, maintenant. Eux, ils sont sortis des poules, c'est bien, c'est bon. Alors, soit ils jouent total libéré contre les Belges, soit au contraire, ils peuvent verrouiller derrière parce que se dire, on sait jamais, hein, les Belges, c'est bon, mais c'est pas si bon que ça, parce que ils ont pas été si impressionnants que ça contre le Panama et la Tunisie, qui étaient quand même plus faibles que le Japon. Donc,
Mais moi, je pense que si tu veux, dans un petit Croatie-Danemark, si les Croates marquent vite, ça va jouer.
Oui, bah, parce que derrière, voilà, il faut que le favori, entre guillemets, ouvre rapidement le score pour forcer l'équipe adverse à jouer.
Je suis d'accord avec toi, et je pense que dans un Colombie-Angleterre, il n'y a pas vraiment de favori entre les deux. Ils sont quand même deux sélections qui sont plus tournées vers l'attaque que vers la défense.
Oui, mais tu vois, Colombie-Angleterre, tu te dis, il y a un partout à la 80e, ces deux équipes qui vont continuer à jouer pour essayer de l'emporter. Mais dans un Suède-Suisse, si c'est un partout à la 80e, ils risquent de tous les deux verrouiller et attendre la prolongation, parce que si on se prend un but à la 86e, il nous restera que 5 minutes pour égaliser, alors que si on le prend à la 96e, il nous reste 25 minutes pour essayer d'égaliser, tu vois.
Oui, c'est ça.
Donc, et puis dans la prolongation, quand t'arrives à la mi-temps de la prolongation, maintenant on verrouille parce qu'on attend les tirs au but. Donc voilà, je pense que ça dépend de la mentalité des équipes. Pour moi, un Suède-Suisse, je te dis, s'il y a match nul à la 80e, je vois pas l'une des deux faire le forcing et prendre le risque de se faire prendre en contre pour essayer de gagner avant les prolongues. À moins que les joueurs soient complètement calcinés, ils se disent, on ne tiendra jamais 30 minutes de prolongation.
Mais moi, je pense qu'un Brésil-Mexique, ça peut être sympa. Un France-Argentine, ça peut être sympa aussi.
Bah, tout dépendra de la bonne volonté de Messi à jouer. Et de l'autre côté, de joueurs comme Pogba ou Mbappé qui voudront briller à tout prix parce que c'est quand même l'équipe de Messi. Mais briller, ça implique pas de dribbler 8 Argentins tout seul avant de mettre une frappe de l'improbable en pleine lucarne, tu vois. Ça s'appelle jouer collectif. Il faudrait que Deschamps il fasse une vidéo compile du premier tour de Modric et qu'il leur diffuse en boucle. Voilà ce que c'est un vrai excellent joueur de foot. Il joue pour l'équipe. Il joue pas pour ses stats personnels. Mais bon, c'est voilà. En tout cas, ben voilà, ça nous promet des huitièmes passionnants et donc nous les évoquerons.
En mouillant le maillot ?
Non, il fait trop chaud. Ça rafraîchira pas assez mouiller le maillot.
D'accord.
Et puis bien, on a quand même déjà suffisamment fait hein, le mouillage de maillot sur qui on voyait passer. Mais c'est vrai que ça reste quand même des huitièmes très imprévisibles hein, pour moi. Les huit matchs, comme tu dis, même si Brésil part largement favori face au Mexique, l'exploit mexicain porté par son peuple, qui est très présent dans les tribunes et qui se fait très entendre, voilà, il s'arrache complètement pour le plaisir de battre les Brésiliens. Et ouais, non, c'est enfin tout, quasiment tous les huitièmes sont jouables. Donc on verra bien. Et nous, bah, on les évoquera très bientôt, n'est-ce pas Yann, quand on se retrouvera.
Oui, on ne sait pas encore si on les évoquera en une ou en deux fois, mais je pense qu'on devrait les évoquer tous.
Bah oui, et avant les quarts de finale de préférence.
En fait, le mercredi 4 juillet.
Voilà.
Oui, Nico, on va passer en juillet.
Mais dis-moi Yann, comment ça se fait?
Mais parce que vois-tu, Nico... Attends, j'éteins la télé. En effet... Après le mois de juin, il y a le mois de juillet.
Merci Yanni.
Du.
Allez, chauffe Marcel. Bref, allez, au revoir Yann, au revoir tout le monde.
Salut Nico, bon week-end et bon huitième. C'est des huitièmes, tu crois? Des huitièmes.
Des huitièmes.
C'est les Belges.
Et les Suisses. Ah là 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 là.